autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour nous interroger sur le temps qui nous reste pour agir. Face à l'urgence climatique, environnementale, économique et sociale, de combien de temps disposons-nous? Comment agir dans les temps et par tous les temps qui courent? Comment concilier fin du mois et fin du monde? En se basant sur quelle prévision et avec quelle vision? Autant de questions essentielles, existentielles, ouvertes le 10 mai dernier lors du colloque « Avenir, quel temps d'attente ?» au Collège de France, qui a rassemblé sur place dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre les professeurs et spécialistes, toutes disciplines confondues, qui participent à l'initiative « Avenir commun, durable ». Regard croisé des professeurs Dario Mantovani et Jean-Marie Tarascon en direct avec nous en ce lundi de Pentecôte autour de la question « Comment agir dans les temps ?» et « Quel temps devant nous pour quel avenir ?» Bienvenue en musique d'abord avec les Fabuleuses Troubadours.
Demain sera un autre jour. La chance tournera.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la vie vous sourira.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, on nous dira demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain.
Pour qu'ils sont nombreux les demain.
Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Pour que demain ne décourage pas aujourd'hui justement, mais au contraire l'inspire, nous sommes très heureux de vous recevoir. Bonjour Dario Mantovani.
Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Jean-Marie Tarascon.
Bonjour Caroline.
Merci d'être venu en direct partager un peu de votre temps et de vos interrogations sur le temps qui nous reste pour agir ici et maintenant afin de limiter les conséquences du changement climatique sur les sociétés, sur les individus. Le temps presse évidemment, sachant que le défi majeur est de faire converger le plus rapidement possible des temporalités différentes à partir de prévisions et de visions à repenser ensemble. Voilà pourquoi, dans le cadre de l'initiative Avenir commun durable au Collège de France, vous avez, Dario Mantovani, organisé ce colloque Avenir, quel temps d'attente, qui s'est tenu le 10 mai dernier au collège avec les professeurs du collège et des intervenants de toutes disciplines, des climatologues bien sûr, mais aussi des philosophes, des physiciens, des chimistes, des économistes, des historiens et des juristes comme vous, Dario Mantovani. Alors vous êtes juriste, historien, l'un des plus éminents spécialistes du droit romain, professeur titulaire de la chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique au Collège de France. On ne vous attendait pas là, j'ai envie de dire, à la tête de l'organisation scientifique de ce colloque sur notre avenir commun durable et sur le temps qui reste pour le reconstruire. Vous êtes un historien juriste, mais l'avenir, enfin le présent et l'avenir vous intéressent autant que le passé.
Oui, surtout le présent et l'avenir m'intéressent. Mais justement, en tant que juriste, je m'intéresse du droit romain. Le droit romain a marqué notre façon de penser et de parler du droit. Et je m'intéresse aux implicites, c'est-à-dire comment l'empreinte, il y a une empreinte carbone, mais il y a aussi une empreinte histoire sur notre pensée. Et je m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre si cette empreinte, l'héritage du passé, nous aide ou plutôt nous entrave dans la recherche d'une nouvelle pensée. Penser le monde et aborder ces défis demande de nouvelles catégories. Est-ce que l'histoire peut nous aider ou, au contraire, nous empêcher de voir plus loin? C'est de ça que cet intérêt est né.
Et votre approche du temps, alors, Dario Mantovani, c'est celle d'un historien, enfin, c'est d'un juriste du temps passé, donc autour de cette époque romaine. Votre approche, je ne sais pas votre définition du temps, mais on va voir là qu'on se demande si on a le temps, quel est le temps, enfin, il y a plein de temporalités, quelle serait la vôtre, ou comment vous considérez le temps ?
La question du temps, c'est une question énorme, hein. Éternelle.
Mais oui.
Dans le titre que nous avons choisi pour les colloques, il y a un petit clin d'œil à la pensée de Saint-Augustin.
Mm-hmm. Temps d'attente.
Le temps d'attente, oui. Parce que Saint-Augustin pensait qu'il y a trois modalités du temps. Il y a le présent du passé, disait-il. Il y a le présent du présent. Il y a le présent du futur.
Le présent du passé, c'est quoi ? C'est notre mémoire, c'est tout ce
c'est qu'on... C'est la mémoire, c'est justement. Ça, hein. Justement. Et le présent du présent, c'est l'attention, quand vraiment nous regardons autour de nous, nous sommes attentifs à ce qui se passe, et l'avenir, c'est le temps de l'attente. Nous vivons dans l'enchaînement des trois dimensions, parce que pour nous figurer l'avenir, il faut un regard sur le passé, parce que le passé est dans notre mémoire, c'est tout ce que nous connaissons.
Donc il faut un regard sur le passé, il faut une observation du présent et il faut une attente de l'avenir. Alors là, je me retourne vers vous, Jean-Marie Tarascon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos plus éminents spécialistes de chimie du solide et d'électrochimie, professeur au Collège de France, où vous êtes titulaire de la chaire chimie du solide et de l'énergie. Vous êtes internationalement reconnu pour vos travaux de recherche sur les batteries à ions lithium. Alors, vous savez-vous, à propos du temps, qu'il y a un temps incompressible entre la recherche et ensuite l'utilisation. Je ne parle pas du temps entre la recherche et la mise sur le marché, entre la recherche et l'industrialisation. Pour vous, le temps, Jean-Marie Tarascon, en tant que chimiste, c'est quoi ? Enfin, comment vous naviguez dans le temps ?
Bon, alors, comment on navigue ? D'abord, quel temps d'attente ? C'est difficile parce que je suis un impatient né. D'où, par conséquent, il faut que je jongle finalement entre la recherche et la technologie. Et je pense qu'il est important de voir différents concepts entre ces deux extrêmes. Parce qu'il y a la recherche, qui est finalement fondamentale, qui est le désir de comprendre, de savoir comment notre monde fonctionne. Ensuite, il y a la découverte, qui provient de ce qu'on trouve en recherche, ce qui va conduire à une invention. Et cette invention, si elle peut conduire à un produit, eh bien, elle va continuer ou constituer une innovation, c'est-à-dire une nouvelle technologie. Et effectivement, l'adéquation, c'est entre recherche fondamentale et innovation. Et alors, je voudrais commencer par dire directement que finalement, tous les objets qui nous entourent, que ce soit les smartphones, les microprocesseurs, les écrans, ils relèvent tous de découvertes d'au moins 20 prix Nobel. C'est pour ça, finalement...
D'au moins 20 prix Nobel.
C'est pour ça, finalement, que le message que je voudrais passer, c'est que sans recherche fondamentale, il ne peut pas y avoir d'invention ou d'innovation. Alors ensuite, si je peux dire,
allez-y.
Si vous permettez, la notion
bien
de
sûr.
Temps, eh bien, ça va être tout simplement entre la recherche fondamentale et l'innovation. Eh bien, cela, ça va fluctuer. Car finalement, une innovation, une nouvelle technologie, ça va arriver à la convergence d'une connaissance scientifique et d'un marché. Et c'est cette adéquation qui va finalement régler notre curseur à le temps qu'on a pour avoir une innovation technologique ou autre. Et on pourra aller dans des exemples.
Mais là, en l'occurrence, on va y revenir bien sûr avec vous, Jean-Marie Tarascon, vu que le temps presse, il s'agit quoi ? De considérer que, non pas peu importe que le temps presse, mais de pousser la recherche fondamentale, tout en sachant que ça ne donne pas toujours une innovation technologique, et que c'est peut-être pas ça le propos, qu'il faut peut-être pas axer la recherche fondamentale uniquement sur une innovation technologique.
Vous avez parfaitement raison, ça serait catastrophique d'axer la recherche fondamentale directement sur l'innovation. Et on peut en prendre quelques exemples. Et heureusement qu'on a cette recherche fondamentale et ce silo de connaissances. Un exemple, je dirais, impressionnant, c'est tout simplement le vaccin du Covid-19. Eh bien, vous avez vu dans ce cas que, jamais vu dans le passé, dans l'histoire, en un an, les chercheurs ont pu réussir à directement découvrir ce vaccin. Et c'est là l'importance. Pourquoi ? Eh bien, parce que derrière, il y avait plus de 30 ans de recherche fondamentale sur l'ADN, sur l'ARN. Et c'est pour cela. Et dans beaucoup d'exemples qu'on a aujourd'hui, si on prend l'exemple du transistor, si on prend l'exemple de la fibre optique, des amplificateurs optiques, ainsi de suite, ces découvertes ont pu avoir lieu dans des, je dirais, 5 ou 6 ans. grâce à des années de recherche fondamentale, des silos de connaissances qui avaient été établis auparavant. D'où c'est ça qui est très important de voir, je dirais, la convergence d'une connaissance et d'un marché. Et s'il y a un marché, et si tout le monde veut directement coopérer pour ce marché, je pense qu'on pourrait aller plus vite dans les innovations et même, je dirais, dans le combat du changement climatique.
C'est ça. Donc là, finalement, il s'agit vraiment aussi de prendre conscience et d'aller tous dans la même direction. Mais en vous écoutant, et j'ai l'impression quand même que les temps de Jean-Marie Tarascon sont assez proches aussi des temps de Saint-Augustin. C'est assez étonnant, mais finalement, il y a tout le travail qui a été fait. Enfin, la mémoire, le temps du passé, le temps du présent, l'observation, qu'est-ce qu'il faut ? Et le temps d'attente à venir, Dario Antolini.
Ce qui est intéressant, c'est que le temps est vraiment un espace commun d'intelligibilité pour toutes les disciplines. Parce que si on pense, par exemple, à l'étude de la variation du matériel génétique ou en physique, aux interactions entre les particules, en économie, tant du placement court ou long terme de l'argent, ou pour le droit, la durée d'une peine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a un lien direct avec le temps, ou la protection des générations futures. Mm-hmm. Et pour ne pas parler de l'histoire, l'historien, c'est sa matière première, le temps. Alors donc, une réflexion sur le temps est aussi une réflexion sur le dialogue possible entre les disciplines.
Interdisciplinaire. Autour de la question comment agir dans les temps, plus exactement, finalement, comment concilier toutes ces temporalités différentes, je vous propose un nouvel éclairage. C'est celui de Christian Gaulier. Alors, il est économiste, membre du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. Christian Gaulier est le titulaire de la chaire Avenir commun durable au Collège de France cette année. Il a très justement, et non sans humour, intitulé sa leçon inaugurale fin du mois et fin du monde. Comment concilier économie et écologie ? Donc, comment concilier fin du mois et fin du monde ? Nous voilà en plein dans ces questions de temporalité multiple. Je vous propose donc d'écouter un extrait de la communication de Christian Gaulier dans ce colloque « Avenir, quel temps d'attente ?»
De façon plus globale, quand on réfléchit à nos responsabilités envers les générations futures, quand on se met dans un pas de temps plus large, qui est celui, je pense, qui est au cœur de cette conférence, c'est dans cette appréhension de nos responsabilités envers les générations futures, il y a cette problématique de l'action, de la valorisation de ces actions. Et sachez-le, que ces actions sont financées par le secteur public ou que ce soit par le secteur privé, il y a une exigence de rentabilité de ces actions pour que ces actions soient effectivement mises en œuvre. Donc, plus le délai d'attente est long, plus cette exigence de rentabilité sera importante pour compenser ce caractère négatif du fait qu'il y a un temps qui s'écoule entre le sacrifice et la création de valeur. Et des sociétés dans le passé ont effectivement considéré que dans ce terme de présentisme qui était utilisé par Dario, au fond, est-ce que notre civilisation, contrairement à celle de l'île de Pâques par exemple, notre civilisation a le bon niveau de long-termisme, contrairement au présentisme, au court-termisme? Et si oui, quel est en fait le bon degré de court-termisme? Quel est le bon degré de long-termisme? Comment balançons-nous la façon dont on évalue les actions en fonction des sacrifices qu'il exige à court terme par rapport aux créations de valeur à long terme? Donc, choisir entre un sacrifice aujourd'hui et un sacrifice à l'avenir, c'est le sujet du changement climatique. Devons-nous faire beaucoup d'efforts aujourd'hui pour réduire les émissions de CO2 et à nouveau, ça coûtera beaucoup d'argent? Ou bien faut-il simplement laisser les générations futures gérer cette adaptation à ce changement climatique, malgré qu'effectivement, si nous ne faisons rien, nous risquons d'avoir un changement climatique qui devient extrêmement dramatique et qui pourrait aller jusqu'à poser la question de l'existence de l'être humain sur cette planète. Et donc pose la question de la collapsologie, de l'incertitude radicale auxquelles nous sommes confrontés, puisqu'évidemment, quand on réfléchit au temps, à l'avenir, au futur, se pose inéluctablement une question d'incertitude. Il n'y a pas de temps sans incertitude.
Il n'y a pas de temps sans incertitude. Vous êtes d'accord avec Christian Gaulier, Dario Mantovani ?
Tout à fait. D'abord, l'incertitude sur le temps lui-même. Mais
c'est pas aux physiciens qu'il faut en parler, parce que pour eux, le temps n'existe même pas. Hein. C'est
encore autre chose. Le temps, c'est le temps de l'horloge pour eux.
C'est ça.
Et c'est effectivement, toute la question, c'est notre rapport au temps. Le rapport que chacune des civilisations a avec le temps. Et Christian Gollier évoquait le présentisme.
Ouais,
c'est une catégorie qui a été développée, par exemple, par Françoise Hartog. Nos civilisations sont enfuies dans un présent massif, envahissant, qui n'a pour horizon que lui-même.
C'est ça, on serait vraiment dans un présentisme absolu, là, complètement en court terme et complètement. Et vous, en préparant ce colloque, vous pensez qu'on est déjà
peut-être.
Dans autre chose, peut-être.
Peut-être.
Allez-y, Charles.
Peut-être. Moi, je ne suis pas le seul à le penser. Par exemple, un livre vient de sortir il y a quelques jours de Christophe Bouton sur l'accélération de l'histoire, qui est très intéressant à ses propos. Parce que, effectivement, l'accélération de l'histoire fait que notre passé nous semble peu intéressant. Parce qu'il n'a pas de leçons à nous donner. Et c'est ça le présentisme. Mais en lisant les rapports du GIEC, les célèbres rapports du GIEC, du groupe intergouvernemental des experts sur les révolutions climatiques, je me suis dit que peut-être il y a là une nouvelle façon de regarder notre avenir. C'est une façon presque utopique. Je fais un parallèle avec mes livres préférés, La République de Platon, Les Lois de Cicéron, des grands tableaux utopiques. Mais cette utopie, c'est une utopie avec des échéances. Nous sommes bombardés d'échéances 2030, 2050. Et c'est-à-dire, c'est une utopie qui n'est pas seulement un souhait, c'est pas seulement une prophétie, mais c'est plutôt une route qui nous a été, une voie qui nous a été tracée. Et là, se posent quelques questions. Est-ce que c'est une voie sur laquelle nous avons quelque chose à dire en tant que citoyens, ou c'est une nouvelle utopie à laquelle on devra se plier? Je pense qu'il y a là aussi une question.
C'est extrêmement intéressant, Dario Montovani, parce qu'on ne voit absolument pas ça comme ça. Au fond, on voit ça comme un avenir bouché. Alors vous nous dites, mais finalement, on est dans un monde, et c'est vrai qu'on... Voilà, avec des échéances à venir, au fond, on est dans un avenir utopique ou pas, et se pose du coup la question que vous avez abordée lors de ce colloque. Est-ce qu'on est dans des prévisions? Est-ce qu'on est dans des visions prophétiques? En tout cas, on se projette finalement, contrairement à ce qu'on pense ordinairement, on se projette beaucoup dans le futur, mais avec des balises. C'est ça?
Oui, si on a un rendez-vous pour demain, pour la semaine prochaine, pour nos vacances, c'est déjà, c'est déjà un avenir, c'est déjà de l'espoir. Et les rapports du GIEC peuvent être lus de cette façon. Nous avons vraiment quelque chose à faire. Ce sont des échéances qui sont des dates butoirs. L'anglais utilise le terme deadline, c'est un peu effrayant.
Qui est plus violent, oui, c'est des lignes de mort.
Enfin, lignes de mort.
C'est l'arrêt de mort, quoi.
Oui. Oui,
voilà.
Mais pour nous, ce sont aussi des rendez-vous avec un monde possible dans lequel nous et nos enfants, les générations à venir, pourraient trouver leur façon de vivre. Et donc, je pense qu'on est en train, par le biais de cette immense utopie scientifique, rajoute
oui, c'est une utopie scientifique,
c'est
absolument.
C'est une utopie scientifique. On est peut-être dans une nouvelle phase de notre rapport avec le temps.
Nouvelle phase de notre rapport avec le temps, utopie scientifique, Jean-Marie Tarascon. Et en même temps, est-ce que les citoyens peuvent y participer? Quels sont les choix? Une utopie scientifique qui fait aussi un constat terrible de ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que cette utopie scientifique, elle porte tout en elle et beaucoup. Qu'en pensez-vous?
Oui, alors bon, peut-être faudrait rebondir sur un ou deux points de mon collègue Dario, notamment le temps qui change en fonction des civilisations et la culture. Et ça, c'est très important dans le domaine des nouvelles technologies. Et si on est ici, finalement, on confronte les deux continents, l'Europe et l'Asie, bien, les notions de temps sont différentes.
Et ça, nos auditeurs sur le continent africain nous posaient la question, voilà, d'ailleurs, est-ce que les notions de temps ne sont pas différentes?
Mais elles sont différentes et c'est la raison pour laquelle bien, il faut trouver des structures de façon à agir beaucoup plus rapidement de l'autre côté. Ensuite, lorsque le deuxième point que je voudrais recommander également, c'est l'utopie scientifique, comme vous dites, et dont nos directions, ou l'Europe, effectivement, trace des lignes directives pour le futur, c'est-à-dire qu'en 2030, où il ne faut plus qu'on ait du CO2, ainsi de suite. Alors là aussi, bon, c'est utile, car c'est l'utopie scientifique. Mais des fois, il faut regarder quelle est la réalité technologique derrière tout cela, et est-ce qu'on a, à ce jour, toutes les réponses d'un point de vue technologique pour, je dirais, conquérir ces différents objectifs. Et c'est vraiment la difficulté qu'il y a, où la recherche, eh bien, on ne peut pas la diriger systématiquement, avoir un point de chute à un temps réel. C'est ce ça. Temps, il y a de l'incertitude.
C'est ça, il y a de l'incertitude. Il faut des balises et des balises scientifiques et des prévisions aussi scientifiques, mais il faut en même temps, on sait qu'elles sont quand même incertaines. Voilà. Et là, on est dans du...
Voilà. Et j'irais même pas tant plus loin, elles sont incertaines, car une fois de plus, si on prend les exemples de l'histoire, c'est que, eh bien, on peut regarder, je reprends l'exemple du Covid, où là, il y avait réellement un besoin réel nécessaire. Et on peut se demander si aujourd'hui, le changement climatique, tous les citoyens en sont bien conscients. Car s'il y avait, je dirais, le même danger, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de coopération scientifique mondialement sur ce sujet. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'aspect financier qui prend le devant réellement sur l'aspect planétaire et sociétal.
Donc il faut une prise de conscience, il faut une prise de conscience de toutes les temporalités, une prise de conscience de tous les citoyens, un peu à l'image des professeurs du Collège de France qui, au fond, toutes disciplines confondues, disent « Attendez, il faut mettre ça sur la table et s'interroger ensemble. » C'est ce que vous dites, hein, Dario Mantovani, s'interroger ensemble, même sur les prévisions. Ça ne veut pas dire remettre en question, ça veut dire avoir... Il y a des choix à faire. Et si on doit les faire si vite, il faut qu'on les fasse ensemble.
Oui, d'abord, d'ailleurs, le GIEC lui-même préconise l'éducation, l'information, même le recours à des savoirs autochtones comme moyen pour l'atténuation des effets catastrophiques du dérèglement climatique. C'est-à-dire, c'est une voie qui est vraiment préconisée. C'est un peu ce que je disais auparavant, c'est-à-dire il y a une image du monde dans le rapport du GIEC, d'un monde idéal, dans lequel aussi l'information soit plus fiable. Donc vous avez une mission très importante, même du point de vue des médias. J'ai proposé de façon un peu provocatoire lors du colloque d'instituer des écoles de lecture collective des rapports du GIEC. C'est d'abord parce que parfois elles sont un peu abscons.
Un peu dur à avaler.
Oui, mais aussi parce que c'est un peu comme ouvrir le livre de notre destin. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive à toutes les générations. Et peut-être, il faudrait qu'on y regarde avec un peu plus d'attention.
Se saisir de cette opportunité-là, de ce temps-là, autour de la question comment agir dans ce temps-là, hein, ce temps qui est si important. Nous continuons de mettre le temps qui nous reste, et celui qui est devant nous, en question avec vous, Jean-Marie Tarascon et Dario Mantovani. Dario, vous avez choisi pour illustrer notre propos un morceau emblématique signé des Pink Floyd, Time, Time sur RFI. Taking away the moments that make up a dull day.
Thank you.
Dame sur RFI dans le ton des Pink Floyd. Merci pour ce choix, cher professeur Dario Mantovani. Magnifique et judicieux, tout à fait approprié jusqu'aux paroles. Je rappelle que vous êtes juriste, historien, spécialiste du droit romain, professeur au Collège de France. Vous êtes aussi l'organisateur scientifique de ce colloque Avenir. Quel temps d'attente, point d'interrogation, quelle prévision et quelle vision pour notre avenir commun durable face à l'urgence climatique, environnementale, mais aussi sociétale et économique. Nous sommes également en direct avec vous, professeur Jean-Marie Tarascon, titulaire au Collège de France de la chaire de chimie du solide et de l'énergie. Autour de la question « Comment agir dans les temps ?», je vous propose un nouvel éclairage, c'est celui d'un philosophe, Marc Répond, qui nous incite dans son dernier essai à cultiver le désir de résister jusqu'à quand ? Écoutons Marc Répond.
Pour savoir comment agir dans le peu de temps qui nous reste, je vois essentiellement deux visions comme ça inadéquates. La première, c'est celle qui consiste à penser qu'on a encore tout le temps. Et dans le fond, le climato-scepticisme relève d'une vision du temps qui est très intéressée, hein, qui a ses propres lobbies, etc., qui consiste à dire que il sera bien temps d'agir, que nous avons encore tout le temps. Et ça, évidemment, ça paralyse l'action. Il y a une deuxième vision qui paralyse tout autant l'action, qui est, dans le fond, à l'inverse, celle d'un catastrophisme qui considère qu'on n'a plus le temps, que c'est déjà infiniment trop tard. Donc la nécessité de l'action, elle ne peut s'ancrer que dans le refus de ces deux conceptions du temps, celle selon laquelle on a encore tout le temps et celle dans laquelle il est déjà trop tard. Donc après, c'est comment vivre dans ce temps-là et comment trouver une place pour l'action dans ce temps-là. Très concrètement, il me semble que ce qui n'a pas été suffisamment accordé encore, c'est la considération des voix qui réclament une action urgente. Donc c'est la reconnaissance de l'urgence. Et cette reconnaissance de l'urgence, elle est portée aujourd'hui par des voix associatives. Des voies associatives par rapport auxquelles les gouvernants, les gouvernements, ont deux attitudes possibles. La première attitude, c'est de les considérer comme des empêcheurs de gouverner en rond. Et ça, c'est quand même vraiment l'attitude qui a été dominante pendant des décennies. La deuxième attitude, c'est de considérer, et c'est une grande aspiration aujourd'hui, pas seulement de la jeunesse, mais c'est une grande aspiration démocratique. La seconde attitude, c'est celle qui consiste à donner droit vraiment, à toutes ces associations engagées sur le terrain, que ce soit la défense de la biodiversité, que ce soit la défense du climat, que ce soit la défense de la nature, etc. Toutes ces associations engagées pour dire ce qu'il est urgent de faire. Donc, pour répondre à votre question, à l'urgence du temps doit répondre la démocratisation de l'expertise. Donner droit au mouvement associatif, donner droit aux lanceurs d'alerte, donner droit à tous ceux qui savent et qui disent, sans considérer simplement qu'ils empêchent les lobbies de gouverner en rond, eh bien, c'est démocratiser l'expertise.
Qui veut réagir à ces propos du philosophe Marc Répond, Jean-Marie Tarascon?
Oui, parce que je pense que l'urgence du temps, c'est ce que tout scientifique a vraiment bien à la tête.
C'est ça.
Et ça, je pense qu'il n'y a aucune question à ce sujet.
Les chercheurs le savent, les chercheurs le savent, hein, et travaillent là-dessus.
Les chercheurs le savent, les chercheurs sont des visionnaires. Ils envisagent des solutions, de nouveau, pour essayer d'attaquer ce problème. Et ces solutions, bien sûr, vont prendre un certain temps, mais pas un temps infini, car on peut accélérer la recherche, une fois de plus, en la mutualisant, et en faisant en sorte qu'on ait des contextes scientifiques et des contextes financiers adéquats pour réussir dans ce secteur.
Par exemple, prenons l'exemple des piles, à ion lithium, mmh, sur lesquelles vous travaillez. Vous êtes un des spécialistes, vous avez fait des découvertes là-dessus. Ça avance. Est-ce que ça avance assez vite? Je ne sais pas. Mais de toute façon, ça avance. Et c'est la seule chose qu'on doit voir.
Voilà, ça avance, mais là aussi, je pourrais prendre directement ça comme exemple pour montrer l'importance du contexte scientifique et du contexte financier. Mmh. Je prendrais par exemple trois découvertes, si on peut dire en toute modestie, qui sont la batterie plastique qu'on a fait il y a de cela 20 ans aux États-Unis, lorsque j'étais au Belcor, où ça c'était directement un engagement de l'industriel qui finançait par lui-même ce projet. Et là, en 5 ans, on a pu réussir à sortir une nouvelle technologie. car on était finalement protégés, isolés et financés.
Par l'industriel, les chercheurs, les scientifiques, les chimistes.
Voilà. Si je reprends un exemple, un second exemple, c'est un exemple beaucoup plus récent, c'est l'exemple de la technologie sodium-ion que nous sommes en train de développer au niveau français dans le cadre du réseau français sur le stockage de l'énergie. Où là, ça a été un financement public et entre des chercheurs, ainsi de suite. Et dans ce cas, mais aucun industriel n'a voulu directement prendre parti pour cette technologie en étant trop frileux. Ce qui fait qu'il nous a fallu, dans ce cas, plus d'années pour mener cette technologie à jour.
Vous aviez le soutien gouvernemental, national de la France, mais ça ne suffit pas.
Voilà. Et peut-être le troisième exemple, qui peut être le plus important, c'est ce que l'on essaie de découvrir aujourd'hui, ou de faire aujourd'hui, c'est finalement les fameuses batteries intelligentes dans lesquelles on va y injecter des capteurs. Et ça, c'est un exemple, je dirais, qui est important, car c'est une recherche qui se fait une fois de plus dans le niveau universitaire, dans le contexte universitaire. Et là, pour rebondir sur les premières questions que vous avez eues au départ, c'est qu'il n'y a pas le lien direct entre l'innovation et le secteur de la recherche fondamentale qu'il nous faut. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans un domaine ou un point où il nous faut d'autres expertises, comme des expertises du monde des capteurs, du monde de l'optique. Et c'est là, si vous voulez, où on voit qu'il faut vraiment investir dans la recherche fondamentale, mais à tous les niveaux.
Interdisciplinaire, véritablement. On ne peut plus travailler seul en tant que chimiste du solide et de l'énergie. Voilà. Il faut beaucoup d'autres chercheurs de très haut niveau qui travaillent ensemble là-dessus, dans la même direction.
Voilà, et je crois que le message est vraiment là. Aujourd'hui, on ne peut rien faire soi-même. Il faut tout simplement trouver les compétences, développer des interfaces et construire, bâtir en dehors du classique. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Et c'est ça qu'il faut vraiment inciter dans les recherches nationales, voire européennes.
Dario Mantovani, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus, parce qu'on est encore là, il faut qu'on passe à autre chose. Vous dites vous-même qu'on est peut-être en train d'y passer, qu'il faudrait qu'on lise et qu'on relise ensemble les rapports du GIEC, déjà pour arriver à les décortiquer, et pour se mettre dans cette utopie, attente de l'avenir, qui est possible au fond, ce que nous dit Jean-Marie Tarascon. C'est possible, on ne sait pas comment, et pas en devenant des sorciers fous dans leur tire d'ivoire, pas du tout. En travaillant ensemble, c'est possible, mais il faut qu'on y croit, qu'on le sache et qu'on s'y mette tous. Enfin, il y a des choix là derrière, des choix gouvernementaux, sociétaux qui nous appartiennent.
D'abord, la formation, elle est essentielle. Je pense que c'est le moteur de notre avenir. Mais pour reprendre le fil de la pensée de Jean-Marie, je pense que on parle de démocratisation des expertises. Je pense que le vrai nœud, c'est la complexité de l'expertise aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un degré de complexité, ce que Jean-Marie vient de nous décrire le montre très bien, qui fait qu'il faut réadapter nos structures de recherche, de formation, et ensuite faire l'effort de faire confiance aux scientifiques, mais aussi de s'informer de façon fiable. Et dernière remarque, il y a un côté, il y a une dimension où l'engagement citoyen et des associations trouve une voie pour être écouté. C'est les contentieux climatique, c'est-à-dire il y a une nouvelle dimension de la justice, notamment en France. On sait qu'il y a des précédents aux Pays-Bas, en Colombie, en Allemagne, avec un arrêt célèbre de la Cour constitutionnelle. Mais il y a aussi des arrêts très intéressants en France qui font écho aux soucis qui surgissent des citoyens. Et je pense que c'est là aussi, il y a peut-être une transition énergétique, mais nous sommes en train de vivre aussi une transition juridique. Je pense que cette transition juridique...
Oui, une transition juridique, on considère une rivière comme ayant un droit, oui. Où on peut vraiment donner des droits à la nature, et ça, c'est une énorme transition pour le juriste que vous êtes.
Ah oui, justement, parce que c'est ce que je disais à propos des implicites, la tradition juridique que je connais, mais qui nous a marqués, nous tous, est une tradition anthropocentrique, c'est-à-dire que pour le droit, en tant qu'on le pense aujourd'hui, c'est l'homme au centre de tous les les soucis, mais qui est titulaire des droits. Penser quelque chose d'autre en tant que titulaire de droits, c'est vraiment une nouveauté, mais c'est une nouveauté sur laquelle il faut bien réfléchir, parce que à la fin, c'est toujours l'homme qui porte, porterait la voix de la nature.
Bien sûr,
donc
bien
c'est
sûr.
Parfois c'est plutôt une métaphore que quelque chose qui puisse vraiment faire évoluer. Mais il y a même dans les métaphores, on le sait très bien dans la littérature, donc pourquoi pas dans le droit, il y a une force.
C'est ça, il y a une puissance considérable. On en revient à l'utopie, on en revient à l'imaginaire, et on en revient à la complexité et au fait qu'il faut vraiment se mettre à tous, j'ai envie de dire tous les vivants, hein, en gros, pour pouvoir faire avancer les choses. À ce sujet, je vous propose un nouvel éclairage autour de la question comment agir dans les temps, ou plutôt comment agir tous et toutes ensemble dans les temps. C'est l'éclairage d'une autre professeure invitée cette année au Collège de France, la biologiste et écologue Tatiana Giraud, titulaire cette année de la chaire Biodiversité et Écosystèmes. Elle était récemment notre invitée. Écoutez ce qu'elle dit autour du temps qui nous reste, du temps devant nous.
J'aurais tendance à dire qu'il faut agir le plus vite possible, que tout temps perdu fait disparaître des espèces et qu'on ne sait pas quelle espèce sera essentielle. C'est un peu ces histoires de points de bascule où on peut perdre un certain nombre d'espèces et l'écosystème tient toujours jusqu'à un point de bascule où tout d'un coup, plus rien ne fonctionne. C'est un peu l'image dérivée d'un avion. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la biodiversité, c'est un peu une bibliothèque. Chaque espèce est un livre. Bon, si on perd des livres, c'est dommage. Mais si on voit la biodiversité comme les espèces étant des rivets d'un avion, qui tiennent l'avion, donc on peut perdre quelques rivets, il ne se passe rien. Puis jusqu'au moment où on perd le dernier rivet qui tenait tout, et là, tout collapse. Tous les rivets manquants qui restaient aussi. Donc on peut attendre, mais avec ces points de bascule, ce n'est pas linéaire. Donc il vaut mieux agir vraiment le plus vite possible. Et toutes les espèces qui disparaissent, on ne peut pas les régénérer. Par exemple, il y a une étude récente qui montre que la diversité des mammifères qu'on va perdre là, dans ces 5 prochaines décennies, il faudrait 2 à 5 millions d'années pour qu'elles se régénèrent. Donc ça donne une idée de tout temps gagné est bon à prendre.
Comment fait-on alors, justement, puisqu'on est dans l'urgence, tout en gagner, bon, à prendre, et en même temps, il faut qu'on soit à plusieurs, tous ensemble, pour imaginer, dans l'attente d'une utopie, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment vous réagissez à cet éclairage de Tatiana Giraud, Jean-Marie Tarascon?
J'ai bien aimé la métaphore qui a été faite entre l'avion et les rivets. Mm-hmm. Et je dirais, bon, c'est quand même plus compliqué que ça, parce que si c'était que les rivets dans l'avion, il suffit de mettre des capteurs et on saurait tout simplement quand est-ce que les rivets tombent.
alors que
dans la biodiversité, c'est beaucoup plus complexe
bien
que
sûr,
ça. Donc c'est là aussi, ça montre finalement l'ampleur des problèmes et dépendant ce qu'on attaque et tout ça. Mais là aussi, je pense qu'il faut être très optimiste, car les chercheurs, je dirais, ont une vision, sont passionnés par cette vision, et il faut plutôt trouver les moyens pour faire en sorte qu'on réussisse plus rapidement dans nos effectifs. Et par exemple, bon, Dario parlait de la formation. Je pense que ce qui serait très important, c'est de rapprocher ou d'augmenter la synergie entre la recherche publique, les connaissances et les recherches technologiques. Et ça, c'est primordial.
Il n'y a pas assez de liens.
Et finalement, on s'aperçoit qu'un domaine qui est très, très, très important aujourd'hui pour concrétiser, c'est celui de l'ingénierie. Et il nous manque, on a un gap en Europe. On n'a pas finalement le MIT européen où il y a cette école d'ingénierie de développer. Car dans les améliorations de beaucoup de produits, eh bien, je dirais la science de l'ingénierie est aussi importante que la science fondamentale.
Espérons que vous soyez écoutés. Je propose de méditer ce que vous venez de dire, Jean-Marie Tarascon. À l'écoute d'Omar Penn, extrait de son dernier album Climat, qui est aussi un cri d'alerte sur les pays du Sud, pour les pays du Sud face au changement climatique. Omar Penn, Climat sur RFI, à découvrir aussi en vidéo dans Musique du Monde sur notre site.
Ni dégroulé, mo warlé, na farel. No te won, wartan, kop klima. Pon te balé, ngi tok di xa. Solution mu ja fe lo, si dunia. Le réchauffement climatique et ses conséquences. sécheresse et les eaux côtières, disparition d'espèces, famine, pauvreté, maladie, exode, migration. Dégloulé, mo warlé, pourtant nani won balégi, ni tok ni kha balégi, drama kul si dunia.
Omar Penn sur RFI, le chanteur du Super Diamono revient avec un nouvel album engagé intitulé Climat. Deux circonstances autour de la question comment agir dans les temps. Regard croisé des professeurs du Collège de France, Dario Mantovani et Jean-Marie Tarascon en direct avec nous. C'est maintenant un autre professeur, Rémi Slama, épidémiologiste environnemental, titulaire cette année de la chaire de santé publique au Collège de France, spécialiste de l'impact des particules fines, des perturbateurs environnementaux sur notre santé. C'est à son tour de nous apporter sa vision et des prévisions, à la fois sur le temps court et sur le temps long. On écoute Rémi Slama.
Un des défis des générations d'aujourd'hui, c'est de se réinventer en une société neutre en carbone à l'échelle de quelques décennies. Et donc ça, c'est un fantastique défi pour l'ingénierie, pour la science, pour l'urbanisme peut-être, pour la démocratie aussi, concernant la façon dont on va faire tous ces choix extrêmement profonds qui vont nous impacter au quotidien.
En tant qu'épidémiologiste environnemental, Rémi Slama, est-ce que vous pensez qu'on a le temps, justement, de se réinventer? Est-ce que par rapport à la santé, vous dites parfois que c'est peut-être une opportunité?
D'un certain point de vue, il y a un certain nombre de modifications qui ne vont pas avoir d'impact tout de suite et face à la problématique du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, il y a une grande inertie. Du point de vue des effets sur certaines substances chimiques pour lesquelles une exposition précoce va avoir des effets dans la vie à l'âge adulte, plusieurs décennies plus tard, il y a aussi une grande inertie et les changements qu'on va faire aujourd'hui n'auront pas tous un impact dès demain. Mais dans certains cas, il faut être conscient du fait que des modifications peuvent survenir rapidement. Et notamment, un des grands tueurs et un des grands ennemis de notre santé, ce sont les particules fines. Ces particules fines, elles ont une demi-vie dans l'atmosphère beaucoup plus courte que le dioxyde de carbone et les autres gaz à effet de serre. Et donc, si on arrête de les émettre quelques jours plus tard, dès qu'il va pleuvoir, en fait, eh bien, elles ne seront plus dans l'atmosphère. Donc, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles des actions vont avoir un impact à court terme, à la fois sur notre environnement et aussi assez rapidement sur notre santé.
Rémi Slama nous rappelle, comme vous, que tout n'est pas perdu, loin s'en faut, qu'il y a des pistes, qu'on peut être utopique, si ce n'est peut-être optimiste, mais en tout cas, la seule solution, c'est de s'y mettre tous ensemble et avec des regards différents, parce que là, on a la chance de vous avoir, Dario Mantovani, en tant que juriste, historien, spécialiste de ce droit romain qui nous gouverne toujours, et vous nous dites, mais on est déjà en train d'en sortir, on ne s'en rend peut-être pas compte. Et on est avec vous, Jean-Marie Tarascon, qui nous dit, si on nous aide financièrement, si on pousse la recherche sans la diriger, on peut y arriver. Il y a quelque chose de l'ordre de l'optimisme qui est ressorti de ce colloque Avenir, quel temps d'attente, Dario Mantovani.
L'idée, c'est que d'abord, la réflexion fait gagner du temps. C'est ça l'idée. Et on a eu vraiment l'impression que unir les forces, avoir un regard ouvert, peut nous aider. Mais je pense aussi que ce n'est pas une question d'optimisme.
Ouais.
C'est une question de vie. C'est différent.
C'est plus fort encore.
C'est plus fort encore.
Ouais, bien sûr. Jean-Marie Tarascon.
Oui, je pense que ce colloque a été très riche au niveau des informations. Elle a montré effectivement qu'il y avait espoir. Il y a eu des exposés, je dirais, magnifiques en physique, par exemple, par Serge Haroche, sur le temps.
Notre prix Nobel sur le temps.
Voilà, sur le temps qui était magnifique. Il y a eu pas mal de lueurs d'espoir, et je crois qu'il faut y croire. Mais il faut se réinventer, mais réinventer aussi notre système, pour qu'il soit plus efficace.
C'est tout notre système
pour être plus efficace. Car une fois de plus, bon, si on voit la recherche qui évolue, je vous ai parlé des découvertes qu'il y a eu dans le passé, ces découvertes qu'il y a eu dans des compagnies comme AT&T Bell Labs, comme Toyota, comme IBM, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est-à-dire que les grandes avancées, ça ne pourra être que des subventions ou des aides d'un État ou de l'Europe, qui peuvent encore prendre des risques.
Pourquoi ? Parce que c'est trop énorme ou parce que ces grosses boîtes ne veulent plus ?
Elles deviennent trop frileuses pour lancer de nombreux nouveaux champs de recherche, je dirais. Elles peuvent s'y adapter et il est clair que cette transition ne pourra pas se faire sans nos industriels. Mais je pense que sur les projets à long terme, il faut quand même prendre beaucoup plus de risques et c'est, je pense, au niveau des États, au niveau de l'Europe, de le prendre. Alors bien sûr, se pose la question de temps, la question de la bureaucratie administrative la comparaison dont je mentionnais auparavant entre finalement l'Europe et l'Asie à ce niveau. D'où c'est ces genres, je dirais, de problèmes qu'il faut qu'on adresse, il faut qu'on se structure. Mais je pense que tout chercheur rêve à une vision, à des solutions qu'il doit démontrer, qu'il doit travailler. Et je pense que c'est le but, c'est finalement, c'est de partager cet enthousiasme et de créer des équipes compétentes pour atteindre ces objectifs.
Et au fond, de prendre le temps, vous parlez de réfléchir, de se mettre ensemble avec des cerveaux, des spécialités totalement différentes, prendre le temps de s'arrêter pas trop longtemps, mais pour réfléchir et pour comprendre qu'on est peut-être, enfin, qu'on est en tout cas déjà dans un mouvement différent. Vous le disiez juridiquement, dans nos têtes finalement, on est déjà peut-être en train de passer à autre chose.
Oui, je pense pourquoi je m'engage, d'abord parce que je me suis retrouvé au Collège de France qui a l'esprit de collégialité dans son nom et cette initiative Avenir commun durable qui d'ailleurs a été promue par Jean-Marie, c'est vraiment le lieu où cette complexité, ce dialogue peut vraiment se tisser. Mais en même temps, je me suis engagé parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et c'est-à-dire, il faut avoir une sensibilité sur sa peau. Et lorsqu'on est un chercheur, il faut avoir une sensibilité au climat intellectuel
au climat,
qui change.
Dans tous les sens du terme. Le climat est en train de changer. Ce sera notre mot de la fin, Jean-Marie
Oui, non, peut-être que je répète. On a parlé de formation. Et je voudrais peut-être ajouter quelque chose sur la formation des jeunes, si c'est possible.
Très rapidement.
Parce que sur les jeunes, effectivement, on s'aperçoit qu'ils connaissent bien, ils ont entendu parler de transition énergétique, mais lorsqu'on va en détail, ils ne savent pas exactement de quoi on parle. Et c'est pour ça que j'en profiterai pour passer un clin d'œil. Dans le cas d'Avenir commun durable, on est en train de mettre en place un dictionnaire amoureux climatique dans lequel on va tenter directement de donner des définitions de points importants de cette transition climatique. C'est mon dernier mot. Merci.
Vous reviendrez, Jean-Marie Tarascon et Dario Mantovani, autour de ce dictionnaire amoureux du climat. Ça me plaît bien. Merci à tous les deux d'avoir partagé toutes ces pistes d'interrogation sur l'avenir, l'attente, l'urgence d'agir. Pour en savoir plus sur cette conférence, ce colloque, cette chaire, eh bien, rendez-vous sur le site du Collège de France où tous vos cours et le colloque sont disponibles. Le lien est sur notre site. Merci Dario. Merci Jean-Marie, merci, à bientôt Marie. Alors, autour du dictionnaire amoureux du climat. Là, je ne vais pas vous lâcher. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Rendez-vous demain autour de la question, pourquoi et comment décoloniser les sciences et les savoirs. Tiens donc, en compagnie d'Isabelle Stengers, philosophe des sciences et formidable empêcheuse de penser en rond. À demain, merci pour votre curiosité, chers amis auditeurs. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur RFI. Enrichissez vos